Nous sommes entrés dans l'ère de l'informatique et en entrant dans l'ère de l'informatique, vous avez tous découvert ce qu'on appelle les virus de l'informatique. Vous savez qu'au début, il y a des plaisantins qui se sont mis à écrire des sortes de petits programmes qu'ils mettaient dans des disquettes, qu'ils mettent aujourd'hui sur Internet et qui avaient comme effet de perturber le fonctionnement de votre ordinateur. Au tout début, c'était des programmes extrêmement simples. Autrement dit, ces virus étaient des choses, des objets, des entités simples. Et bien entendu, comme ça perturbait les ordinateurs, il y a eu tout de suite des firmes qui ont produit des antivirus. Donc vous achetez une disquette et avec cela, vous éradiquez les virus. Bon, mais bien entendu, les petits plaisantins ne s'en sont pas tenus là. Ils ont produit des virus plus sophistiqués qui ont obligé les fabricants d'antivirus à faire eux-mêmes des logiciels antivirus plus complexes. Et puis, si vous avez bien remarqué, la chose continue. C'est-à-dire qu'on a affaire aujourd'hui en informatique à des virus de plus en plus élaborés. Et puis on est obligé d'acheter régulièrement, de faire des mises à jour ou même de créer de nouveaux antivirus pour pouvoir continuer à travailler avec les ordinateurs. Eh bien, cette image, qui n'est pas du tout biologique, est une bonne image de la coévolution. Une coévolution, c'est une série de changements qui se produisent entre deux entités. Ça peut être des programmes d'informatique, ça peut être des espèces vivantes, et l'une des entités provoque des changements chez l'autre, et réciproquement. Lorsqu'il y a comme ceci ce qu'on appelle des pressions réciproques, et lorsque les changements continuent d'une manière qui a l'air infinie, parce qu'on peut toujours aller plus loin, eh bien on parle de coévolution. On emploie aussi un mot différent, on emploie aussi le mot de course aux armements. Pourquoi? Parce que c'est très imagé. Lorsque vous avez deux pays qui se méfient l'un de l'autre, eh bien très régulièrement, ils renouvellent leur armement. Un pays a par exemple une certaine arme, un certain missile, eh bien l'autre pays va acheter des antimissiles, ce qui va obliger le premier pays à faire des missiles plus perfectionnés, ainsi de suite. Vous retrouvez cette notion d'une sorte de mouvement auto-entretenu et qui peut continuer indéfiniment. Avant de parler des exemples biologiques que nous allons traiter ce soir, je voudrais rappeler pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des biologistes, ce qu'est, dans le mot coévolution, ce qu'est la partie évolution. Bon, il n'y a personne aujourd'hui qui ne soit, d'une manière ou d'une autre, darwiniste. Darwin, en 1859, a commencé à publier une série de livres, dont le plus connu est L'origine des espèces. Et même si la théorie de Darwin a subi beaucoup de retouches, il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Darwin, il n'y avait pas de génétique. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été apportées. Et les retouches n'ont pas toujours été dans le même sens. Aujourd'hui encore, on conteste par exemple le gradualisme de l'évolution. Dans les années 50, on croyait que tout se passait tout doucement, lentement, etc. Mais de toute manière, même avec les idées les plus récentes, on reste dans un cadre conceptuellement darwiniste. Alors qu'est-ce que c'est que le darwinisme? Eh bien, c'est l'idée qu'il y a une variation aléatoire qui apparaît chez les êtres vivants, dans les populations d'êtres vivants. Une variation. Bon, on sait aujourd'hui que ce sont les gènes, ce sont les informations contenues sur l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, qui sont l'objet de changements, que parfois certains assimilent à des erreurs. On dit lorsque l'ADN se réplique, il fait des erreurs, et puis certaines de ces erreurs sont corrigées et d'autres ne le sont pas. Celles qui ne le sont pas, ce sont des mutations. Et parmi les mutations en question, il va y avoir un choix qui est fait par le milieu. Alors, le milieu ne choisit pas directement les gènes. Le milieu choisit ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire l'organisme qui a été construit sur le plan des gènes, et de la sorte, les organismes, les êtres vivants qui possèdent les gènes, disons les meilleurs, qui leur donnent la meilleure possibilité de se reproduire, bien ces êtres vivants vont répandre leurs gènes dans les populations. Alors, bien sûr, lorsqu'on expose de manière aussi caricaturale, un petit peu simplifiée, l'évolution biologique, on a un petit peu de peine à imaginer qu'en 3 milliards et demi d'années, parce que la vie a commencé il y a à peu près 3 milliards et demi d'années, on a un petit peu de peine à imaginer qu'on ait pu passer des premières formes de vie, qui étaient des molécules peut-être voisines de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ARN, qu'on soit passé en 3 milliards et demi d'années ces molécules-là à nous. C'est pas facile. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on n'a aucune autre explication scientifique de cette évolution de la vie. Dont l'évolution de la vie, je résume, c'est une diversité qui est générée au niveau de l'information génétique. Et dans cette diversité, il y a des choix. Et lorsque quelque chose procure à l'être vivant un succès reproductif un peu plus grand, eh bien cet être vivant va répandre ses gènes et petit à petit, on est passé effectivement des formes les plus simples aux formes les plus compliquées qui sont représentées par l'homme. Je disais tout à l'heure qu'un exemple en dehors de la biologie, c'était donc les virus et les antivirus de l'informatique. Alors là-dedans, il y a le mot virus. Alors vous voyez que ça nous fait une transition toute naturelle avec les véritables virus et je dirais, de manière plus générale, avec les parasites en général. Qu'est-ce que c'est qu'un parasite? C'est un organisme qui exploite un autre organisme et qui le prend en même temps comme habitat. Lorsque par exemple votre chat mange une souris, il exploite la souris puisqu'il lui prend de l'énergie, mais il ne prend pas la souris comme habitat. Ce n'est pas un parasite, c'est un prédateur. Par contre, si vous avez un ver solitaire chez vous, eh bien ce ver solitaire, il vous prend de l'énergie et en même temps, il est chez vous. Il se sert de vous comme habitat. Il y a donc ce qu'on appelle une interaction durable qui va faire que les deux organismes vont vivre pendant longtemps ensemble. Ces systèmes que l'on appelle des systèmes parasites hôtes peuvent concerner des parasites extrêmement différents et des hôtes extrêmement différents. Du point de vue des hôtes, on peut dire qu'il n'y a aucun organisme vivant sur la Terre qui n'ait pas de parasite. Et du point de vue des parasites, eh bien c'est très variable. Il y a des parasites qui sont des simples molécules, ce sont par exemple les éléments mobiles qui se trouvent sur la molécule d'ADN. Il y a les virus que nous connaissons tous, il y a les bactéries, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et puis, il y a des parasites plus élevés en organisation, et il y a même quelques poissons parasites, par exemple, et il y a même des oiseaux, les coucous, qui d'une certaine manière sont parasites. Par conséquent, le mot parasitisme englobe une très très large gamme d'êtres vivants. Revenons à ce problème de coévolution. Je disais tout à l'heure, les virus informatiques, ils se perfectionnent, et en revanche, les antivirus se perfectionnent aussi. Imaginons un virus, un vrai virus cette fois-ci, non un vrai parasite, qui se met à exploiter à un certain moment d'évolution, qui se met à exploiter un être vivant. Ça veut dire qu'il le prend donc comme habitat et comme source de nourriture. Eh bien, par le fait même qu'il lui prend de l'énergie, il diminue, statistiquement parlant, le succès reproductif de son hôte. Il lui prend quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça va se produire chez tous les individus, mais globalement parlant, il va y avoir une diminution du succès reproductif. Par conséquent, vous imaginez tout de suite que si, dans la population des hôtes, il y a, par suite des mutations de l'information génétique, il y a une diversité de mécanismes qui apparaît susceptibles de lutter contre ce parasite. Eh bien, les individus qui vont être capables de lutter vont se reproduire mieux que ceux qui se laissent infecter. Mais, dans ce cas-là, le parasite va être perdant. Il va donc être soumis à une pression, on parle de pression de sélection, qui vient cette fois-ci de l'hôte, puisque l'hôte essaye de s'en débarrasser. Et que va faire le parasite? Eh bien, il va faire comme les petits plaisantins qui font des virus, il va se perfectionner. Autrement dit, il va s'adapter, toujours par sélection naturelle, toujours parce qu'il va y avoir sélection par justement la pression de l'hôte, de formes de virus qui sont plus performantes pour exploiter et pour subsister. Et vous devinez que là, de nouveau, on retrouve le mouvement auto-entretenu. Face à ces virus, face à ces parasites qui ont évolué, qui se sont mieux adaptés, eh bien l'hôte ne va avoir d'autres ressources que de se modifier à son tour génétiquement, toujours par le biais de la sélection naturelle. J'ai parlé tout à l'heure de chat et de souris. Je reviens au chat et à la souris, vous allez voir pourquoi. Si votre chat court après une souris, et s'il attrape la souris, donc s'il y a rencontre, entre le chat et la souris, il n'est pas donné de deuxième chance à la souris. La souris va être croquée et cet individu-là ne transmettra plus ses gènes. Il peut y avoir très bien une course aux armements, peut-être entre le chat et la souris, je ne sais pas si ça a existé, mais peut-être il y a-t-il eu une course aux armements de ce genre-là, avec des souris qui détectent l'odeur du chat de mieux en mieux, ce qui oblige le chat à détecter lui l'odeur de la souris. Vous avez un exemple de course aux armements formidable dans Walt Disney quand vous regardez les dessins animés de Tom et Jerry. Vous avez Tom qui essaye toujours d'inventer des choses nouvelles et vous avez Jerry qui lui toujours invente quelque chose pour imiter le chat. Donc ça a dû se produire aussi plus ou moins à l'échelle de l'évolution. Je passe maintenant au système parasite hôte. Les choses sont différentes en ce sens que lorsque le chat attrape la souris, La souris n'a pas de deuxième chance. Lorsqu'un parasite infecte un hôte, l'hôte a une deuxième chance. La première chance de l'hôte, c'est d'éviter la rencontre avec le parasite, comme la souris qui essaye d'éviter la rencontre avec le chat. Mais si la rencontre a quand même lieu, là où dans le cas de la souris, c'est fichu, eh bien dans le cas de l'hôte qui a été infecté par un parasite, il lui est donné une deuxième possibilité, c'est de lutter contre le parasite après l'infection. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse interaction durable, et que pendant l'interaction durable, si je peux m'exprimer ainsi, la guerre peut continuer. Ça veut dire que dans un système parasite-hôte, il faut distinguer en fait, non pas une, mais deux courses aux armements. Il y a ce que j'appelle la course aux armements rencontre, tout à fait équivalente à celle du chat et de la souris, et la course aux armements compatibilité, qui va déterminer la possibilité pour le parasite et l'hôte de continuer à vivre ensemble. Alors voici de quoi je veux parler. Imaginons qu'un système de parasites soit en train de se mettre en place. Il faut bien comprendre que le parasite n'a de chance de survivre et donc de transmettre ses gènes que s'il rencontre l'hôte. Par conséquent, dans la population du parasite, s'il y a des gènes ou des combinaisons de gènes qui favorisent la rencontre avec l'hôte, elles vont être logiquement sélectionnées. Mais bien entendu, du côté des hôtes, s'il y a des gènes ou combinaisons de gènes qui permettent d'éviter la rencontre, elles vont être logiquement sélectionnées. Mais supposons que, malgré tout, la rencontre ait eu lieu. À ce moment-là, l'initiative revient à l'hôte. L'hôte est infecté. Il va faire jouer sa deuxième chance, c'est-à-dire qu'il va essayer de tuer le parasite, dont il va sélectionner des gènes ou des combinaisons de gènes qui vont lui permettre de se débarrasser du parasite. Mais ça crée une pression de sélection sur le parasite. Le parasite ne transmettra ses gènes que s'il survit assez longtemps pour faire des propagules, c'est-à-dire des œufs, des larves, etc., et se reproduire. Et par conséquent, il va y avoir chez le parasite sélection de gènes ou de combinaisons de gènes qui vont lui permettre de survivre malgré l'environnement hostile que lui a créé l'hôte. Au total, si vous avez bien retenu les quatre étape que je viens de dire, il y a d'abord, chez le parasite, sélection de gènes pour rencontrer, sous-entendu l'hôte. Il y a une contre-mesure, une réponse dans les populations de l'hôte avec sélection de gènes pour éviter, sous-entendu le parasite. Et puis, si la rencontre a lieu quand même, il va y avoir chez l'hôte sélection de gènes pour tuer, sous-entendu le parasite. À quoi répondra la contre-mesure du parasite, c'est-à-dire la sélection de gènes pour survivre malgré le milieu hostile qui est créé par l'hôte. Alors je voudrais vous donner quelques exemples. On ne va pas faire tout un cours de parasitologie. Des exemples de gènes pour rencontrer d'abord. Vous avez tous entendu parler d'une maladie qui s'appelle la bilharziose, qui est la deuxième maladie de l'humanité après le paludisme. C'est une maladie qu'on attrape dans les pays tropicaux en allant dans l'eau. Parce que dans l'eau, à un certain moment, il y a des petites larves qui apparaissent, qui nagent, qui vont pénétrer à travers votre peau. Et ces petites larves, elles ont été produites chez un mollusque. C'est un cycle biologique un petit peu complexe. Au départ, il y a le mollusque, et puis après, il y a éventuellement vous qui allez entrer dans l'eau. Eh bien, les personnes qui vivent dans les pays tropicaux ne vont certainement pas se baigner ou travailler dans les rizières ou travailler dans les canaux ou bien laver le linge à n'importe quelle heure du jour. Elles y vont au milieu de la journée. Eh bien, les petites larves du parasite, elles sortent exactement au milieu de la journée, comme si elles avaient une montre. Ce sont des gènes pour rencontrer. Tout simplement parce que s'il y avait des gènes qui faisaient sortir les larves en question au milieu de la nuit, eh bien, comme ces larves ont une durée de vie courte, elles seraient contre-sélectionnées. Elles n'auraient aucune chance que leurs gènes se perpétuent. Voilà un premier exemple. Un deuxième exemple qui est dans tous les livres de parasitologie, et qui est assez extraordinaire. C'est le fameux exemple que vous avez tous appris à l'école de la petite douve du foie. Alors, si vous vous rappelez, la petite douve du foie, à un moment, le parasite est chez une fourmi. Et puis, pour survivre, pour continuer son cycle, le parasite, à un certain moment, doit se trouver chez le mouton. Il faut donc, en toute logique, que le mouton avale la fourmi pour que le parasite devienne adulte. Bon, les moutons ne cherchent pas spécialement à manger des fourmis. Eh bien, lorsque le parasite pénètre dans la fourmi, il modifie le comportement de cette fourmi particulière. Alors que les autres fourmis continuent à vaquer leurs occupations autour de la fourmilière, à ramasser des grains de blé, je ne sais pas, à faire quelque chose, eh bien, la fourmi qui est parasitée par la petite douve du foie va monter le matin le long d'un banc d'herbe, s'accrocher par ses mandibules en haut du brin d'herbe. Et vous devinez tout de suite que ça augmente fortement la probabilité qu'en passant, en broutant de l'herbe, le mouton avale la fourmi. Et c'est plus extraordinaire encore que ça, parce que le mouton ne va pas forcément passer le premier jour. Eh bien, pour éviter de se dessécher sur son brin d'herbe, parce qu'aux heures chaudes de la journée, la fourmi finirait par se dessécher, dans la journée, elle redescend, si elle n'a pas été mangée, elle se mêle aux autres fourmis de la fourmilière, et sagement, le lendemain matin, elle remonte sur son brin d'herbe pour, entre guillemets, se faire manger. Alors, il ne s'agit pas de quelque chose de merveilleux, il s'agit simplement d'un phénomène de sélection naturelle, c'est-à-dire que le parasite manipule, on emploie ce mot, manipule le comportement de la fourmi. Et je vous dis tout de suite, mais je ne vais pas le traiter, qu'on se demande beaucoup aujourd'hui si certains parasites ne manipulent pas le comportement des hommes. Mais en tout cas, dans le cas des fourmis, c'est bien démontré, il n'y a pas de doute, ce sont des gènes pour rencontrer qui ont été sélectionnés chez le parasite de la fourmi pour rencontrer le mouton. Vous voyez, ce n'est pas le parasite lui-même qui agit, le parasite agit par l'intermédiaire de la fourmi. Alors, deuxième catégorie de gènes, les gènes pour éviter. Alors là, attention, nous sommes chez l'hôte maintenant. Nous sommes chez l'hôte. Alors, des gènes pour éviter, je vais vous citer encore deux exemples. Vous avez beaucoup d'oiseaux qui sont parasités par des petits parasites qui passent d'un animal infecté à un animal non infecté par simple contact. Là, le cycle est beaucoup plus simple, c'est un contact direct. Et en particulier, ça se passe au niveau des accouplements. Ce qui veut dire que une femelle d'oiseau qui s'accouple avec un mâle parasité, ces parasites sont un petit peu analogues à des poux, alors on peut appeler ce mâle un mâle pouilleux, eh bien, elle risque d'attraper des poux. Donc, si elle arrive à détecter le fait que le mâle porte des poux, elle va limiter la possibilité de se contaminer. Ça va être un gène pour éviter. Eh bien, ça se passe. Parce que lorsque le mâle a des poux, les poux, on ne les voit pas du tout de l'extérieur. Ils sont à la base inférieure des plumes. Mais lorsqu'un mâle a des poux, eh bien, il se refroidit un petit peu plus vite parce que les parasites ont mangé les barbules des plumes. Et par conséquent, il peut faire des parades devant la femelle moins longues que les mâles qui sont sains. Et tout se passe comme si la femelle avait un chronomètre. Elle chronomètre à la parade du mâle, et si ce n'est pas assez long, elle lui dit pas question. Et à ce moment-là, elle s'accouple avec le mâle sain. Voilà un très joli gène pour éviter. Ceci a été découvert par un collègue de Oxford, pardon, j'allais dire Cambridge, il ne faut pas se tromper, un collègue d'Oxford qui s'appelle Dale Clayton et qui a fait des très beaux travaux, extrêmement démonstratifs. Ce n'est pas des jolies histoires que je vous raconte, ce sont des résultats d'expériences extrêmement convaincantes. On a donc un gène pour éviter. Et pour rester un petit peu dans le pittoresque, je vous citerai un autre gène pour éviter qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé pourquoi les zèbres étaient des zèbres, c'est-à-dire pourquoi ils étaient zébrés, pourquoi ils avaient des rayures. Comme j'ai écrit quelque part dans l'un des livres dont parlait monsieur, c'est une sorte de code barre qui désigne le zèbre à l'attention de tous ses prédateurs. Je ne sais pas, mais il me semble que si je suis un lion, je vais voir le zèbre de loin avec ses rayures. Eh bien, on a essayé beaucoup d'expliquer. Alors d'abord, on a dit les lions sont myopes. Bon, mais ça ne tient pas la route. Les lions, ils ne sont pas myopes du tout. Et alors, la seule explication qu'on ait trouvée, et avec de bons arguments, que je ne vais pas vous développer, mais croyez-moi, il y a de très bons arguments, c'est que les rayures, ils ne protègent pas du tout, les rayures ne protègent pas du tout contre les lions, mais elles protègent contre les mouches tsetse. Parce que les mouches tsetse voient les grandes surfaces, et lorsque la surface est rayée, elles ne la voient pas. On utilise d'ailleurs cette propriété pour lutter contre les mouches tsetse. Dans les villages, on met des grandes surfaces, comme ça, des grandes surfaces rectangulaires, où on met aussi de l'insecticide, de manière à attirer les mouches tsetse et à les tuer. Ce qui veut dire qu'en ayant des rayures, le zèbre évite d'être piqué par les mouches tsetse, et en évitant d'être piqué par les mouches tsetse, il évite la rencontre avec les fameux trypanosomes de la maladie du sommeil. Vous voyez que c'est encore. Alors, ces rayures-là, je n'hésite pas à dire, même si ça donne l'impression d'être anecdotique, que les gènes qui codent pour ces rayures, ce sont des gènes pour éviter. Alors voilà la course aux armements, j'ai appelé la course aux armements rencontre. Passons maintenant à la deuxième course aux armements. Supposons que l'infection ait eu lieu. Eh bien, si l'infection a lieu, on passe au compartiment gène pour tuer. Nous sommes chez l'hôte maintenant. Et Cuvier, oui, Cuvier, il y a 200 ans, avait remarqué que les antilopes et la majorité des ongulés avaient à la mâchoire inférieure des espaces entre les dents. Autrement dit, les dents ne sont pas jointives et même les dents sont légèrement mobiles. Et Cuvier avait dit, ça doit servir à enlever les ectoparasites, c'est-à-dire les parasites superficiels de la peau. Il y a une expérience qui a été faite en Afrique du Sud, il y a maintenant 4 ans, par un chercheur qui a capturé des antilopes, qui a obturé avec du ciment dentaire les espaces interdentaires d'un seul côté, qui a relâché les antilopes. Elles ont été suivies par radio tracking, c'est-à-dire qu'il y avait des émetteurs qui étaient sur les antilopes, dont on a pu les recapturer. Et on a comparé à ce moment-là combien il y avait de tiques, les tiques ce sont des ectoparasites, du côté où les antilopes pouvaient encore se toiletter, comme on dit, le mot anglais c'est le grooming, et du côté où ils ne pouvaient pas, puisqu'il y avait le fameux ciment dentaire. Eh bien, il y avait 10 fois plus de tiques du côté où elles ne pouvaient pas se toiletter. Parce qu'effectivement, on a vu ensuite que les antilopes arrivent à passer 30% de leur temps à enlever les parasites qu'elles ont rencontrés. Eh bien, c'est une première forme de gène pour tuer. Alors, bien sûr, c'est un exemple zoologique, mais vous savez tous que les gènes pour tuer, les gènes principaux, ce sont des gènes qui sont d'une importance capitale pour lutter contre toutes les maladies infectieuses et parasitaires. Ce sont les gènes de l'immunité. Ces gènes de l'immunité, nous en avons tous. En fait, tous les animaux en ont, même les invertébrés, même les animaux relativement inférieurs. Et ces gènes pour tuer, ces gènes immunitaires, qui sont très complexes, vous savez que dans le génome humain, il y a des phénomènes possibles de réarrangement du génome pour produire des dizaines de millions d'anticorps. Eh bien, ces gènes-là, ce sont des gènes pour tuer, redoutablement efficaces, mais en même temps, je le dis, très efficaces. Ayons tout de suite présent à l'esprit que malgré ça, les maladies existent. Alors pourquoi les maladies existent-elles? Eh bien, parce qu'en même temps que ces gènes pour tuer étaient sélectionnés dans le génome des hôtes, eh bien, les parasites, ils faisaient comme les plaisantins qui font des virus informatiques. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils se perfectionnaient de plus en plus et ils ont appris à lutter. Et ils luttent très bien. Alors, ils luttent, par exemple, en se recouvrant de molécules qu'ils empruntent à l'hôte. C'est le cas des schistosomes, de la maladie, la bilharziose dont je parlais tout à l'heure. Ils acquièrent des molécules qu'ils empruntent dans le sang à l'hôte qui les porte. À ce moment-là, ils deviennent complètement invisibles pour le système immunitaire. Il y a probablement une autre manière qui a été sélectionnée pour les parasites, c'est de devenir endocellulaire, c'est-à-dire de pénétrer à l'intérieur des cellules. Je ne dis pas que tous les parasites endocellulaires sont endocellulaires pour éviter les défenses immunitaires, mais il est bien certain qu'à l'intérieur des cellules, même s'il y a des enzymes, même s'il y a des moyens pour la cellule de lutter, ces moyens sont infiniment moins spécifiques et infiniment moins efficaces que les moyens qui sont à l'extérieur des cellules. Voilà donc des exemples de gènes pour survivre. Alors vous voyez, je résume. Le parasite essaye de rencontrer, l'hôte essaye d'éviter. Alors s'il évitait tout à fait, bien sûr, ça s'arrêterait là. Mais il n'évite pas tout à fait, dont il est dans certains cas infecté, d'où la sélection de gènes pour tuer, à laquelle répond, chez le parasite, la sélection de gènes pour survivre. Cela dit, est-ce que toutes les associations parasitaires répondent au schéma que je viens de faire? La réponse est non. Je vais vous montrer comment on peut passer de la notion de parasitisme à la notion de mutualisme. Alors, supposons que vous ayez un de vos amis qui passe tous les soirs chez vous et qui fait le pic-assiette. Il passe, il dit, tiens, je passais par hasard, tu as bien quelque chose à me donner à manger, je peux rester chez toi, on bavardera. Bon, le premier jour, vous êtes content parce que c'est un de vos amis. Puis il recommence le lendemain, puis il continue. Je vous promets qu'au bout de quelque temps, vous allez le traiter de parasite. Mais supposons que cet ami ait le bon goût. Chaque fois de vous offrir quelque chose. Le premier jour, il vous offre des fleurs. Le deuxième jour, il arrive avec une belle boîte de bonbons. Le troisième jour, une super bouteille de cognac. Eh bien, si chaque jour il continue, non seulement vous n'allez pas le traiter de parasite, mais c'est le jour où il ne viendra pas que vous allez dire, alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en retard. Eh bien, ça s'appelle, bon, d'une manière imagée, offrir des fleurs aux hôtes. Ça veut dire qu'une bonne manière pour les parasites de faire baisser tous les mécanismes de défense des hôtes, qu'il s'agisse des mécanismes pour éviter ou des mécanismes pour tuer, une bonne manière, c'est d'apporter aux hôtes ce que j'appelle des gènes innovants, c'est-à-dire quelque chose qui vont donner du succès reproductif à l'hôte au lieu de lui en enlever. On a parfois l'impression que le parasitisme et le mutualisme, ce sont des choses complètement différentes. Non. Je vais vous montrer que ce ne sont pas des choses complètement différentes. Dans le mutualisme, on a parfois l'impression que c'est quelque chose de merveilleux, une sorte de bonne entente. Par exemple, il y a des insectes qui pollinisent des fleurs, et les fleurs, en échange, leur donnent du nectar. Et on a l'impression que c'est merveilleux. Eh bien, ce n'est pas tout à fait cela. Ce n'est pas tout à fait cela. Je vais vous montrer que dans le parasitisme, il y a un des partenaires qui exploite l'autre, et que tout simplement, dans le mutualisme, il y a l'un qui exploite l'autre et l'autre qui exploite l'un. Mais c'est une exploitation croisée et qui est totalement égoïste, aussi égoïste que l'association parasitaire. Je vais vous montrer l'exemple classique. Et je vous parlais tout à l'heure de Cuvier, je vais maintenant remonter à Darwin. On avait apporté à Darwin des orchidées de Madagascar. Ah, vous savez que la fleur d'orchidée, c'est une très jolie fleur, on en voit maintenant chez les fleuristes. Et vous avez peut-être remarqué que, au bas de la corolle, de la plupart des orchidées, il y a un petit tube cylindrique qu'on appelle un nectaire. Et il y a là-dedans du liquide sucré. Et ça attire des insectes. Alors, les insectes viennent boire le petit liquide sucré. Mais en même temps, avec la tête, pour attraper le liquide sucré, ils heurtent une région de la fleur où se trouve ce qu'on appelle des pollinies, c'est-à-dire des masses de pollen, avec une petite zone collante. Alors, les pollinies vont se coller sur la tête de l'insecte, puis l'insecte va aller visiter une autre fleur, et il va donc transporter le pollen de la première fleur sur les organes femelles de la deuxième fleur. On a typiquement affaire à un système de pollinisateur. Ce qu'on avait apporté à Darwin, c'était une orchidée assez extraordinaire dans laquelle le nectaire faisait entre 25 et 30 cm. Alors, vous imaginez une petite fleur comme ça, et puis un long nectaire comme ça. Et Darwin, parmi d'autres intuitions géniales, en a eu une. Il a dit, si ce nectaire est long comme cela, il doit exister à Madagascar, puisque l'orchidée venait de Madagascar, il doit exister à Madagascar un papillon qui a la trompe aussi longue pour aller chercher le nectar au fond du nectaire. Darwin écrivait cela vers 1865, on a trouvé le papillon en 1920, mais il existe. Et le papillon, il a bien une trompe de 25 à 30 cm. Et quelle est l'explication qu'on donne? Enfin, l'explication qu'on donne le plus souvent, parce que si certains d'entre vous sont familiers avec le mutualisme, ils savent qu'il y a quelques discussions sur le problème. Mais l'explication la plus classique est la suivante. Imaginons qu'il y ait, chez l'orchidée, une certaine variabilité de la longueur du nectaire. Imaginons qu'il y en ait de plus court que d'autres. Eh bien, que va faire le papillon? Le papillon, il va arriver, il va boire le nectar, mais comme le nectaire est court, il n'a pas besoin de véritablement entrer dans la fleur, et par conséquent, il va boire le nectar. Mais il va repartir sans les pollinies. Autrement dit, il a le salaire, mais il n'a pas fait le travail. Imaginons inversement maintenant qu'on ait dans la population de papillons des individus qui ont la trompe plus courte que d'autres. Alors, ils vont venir, ils vont essayer d'attraper le nectar au fond du nectaire, ils vont heurter les pollinies, donc ils vont prendre le pollen sur la tête, mais ils ne vont pas arriver à se nourrir. Eh bien, en termes de transmission de gènes, vous voyez tout de suite que les orchidées qui ont les nectaires courts ne vont pas transmettre leurs gènes, puisque le papillon repart sans les pollinies. Et vous voyez que les papillons qui ont les trompes courtes vont être aussi désavantagés, ils ne se nourrissent pas, donc ils vont ou bien ne pas transmettre, ou bien moins bien transmettre leurs gènes, tout simplement parce qu'ils ne se sont pas nourris et que les ovules ou les spermatozoïdes n'ont pas mûri correctement. Vous voyez à quoi ça mène. C'est de nouveau l'histoire des virus et des antivirus. C'est que ça sélectionne chez l'orchidée des nectaires de plus en plus longs. Et ça sélectionne chez les papillons des trompes de plus en plus courtes. Et cela pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'orchidée. Alors, je vais employer une expression un petit peu anthropocentrique, mais c'est toujours la sélection naturelle qui est derrière. L'orchidée n'a d'autre but que de transmettre ses gènes. Elle ne fait rien pour nourrir le papillon. Il n'y a aucun altruisme là-dedans. Pas du tout. Et le papillon, lui, il s'en fiche complètement de l'orchidée. Il ne transporte pas le pollen par plaisir. Son seul but, c'est de se nourrir. On a deux égoïstes, mais dont les égoïsmes, eh bien, arrivent à faire quelque chose ensemble. Mais vous voyez que ce sont deux exploitations réciproques et que le mutualisme s'est totalement éloigné de l'image un petit peu idyllique qu'on en donne quelquefois. Vous voyez que dans les systèmes mutualistes, on a donc le même phénomène que dans les systèmes parasitaires. Maintenant, je voudrais aborder une autre question. Au fond, je viens de vous raconter, je dirais, des jolies histoires. La question est de savoir si la coévolution, les phénomènes de coévolution tels que je viens de vous les décrire, La question est de savoir si ces phénomènes sont simplement justement des petites anecdotes ou bien si la coévolution a joué un rôle dans l'évolution, la vraie, avec un grand E, c'est-à-dire l'évolution qui a mené des formes initiales de la vie à nous tous aujourd'hui. Je vais vous raconter encore une histoire, mais vous allez voir qu'elle va nous servir. Cette histoire, elle est dans Lewis Carroll. Vous avez tous entendu parler d'Alice au Pays des Merveilles. Je suppose qu'au moins la moitié d'entre vous a lu Alice au Pays des Merveilles. Et dans Alice au Pays des Merveilles, ou plus exactement dans la deuxième partie qui s'appelle À travers le miroir, à un moment, Alice, qui est dans un monde extraordinaire, tient par la main la Reine Rouge. La Reine Rouge, c'est une carte à jouer, qui est devenue un personnage. Et Alice et la Reine Rouge courent en se tenant par la main. Et tout à coup, Alice s'aperçoit de quelque chose d'étrange. Elle s'aperçoit que le paysage ne change pas alors qu'elles sont en train de courir. Elle interroge la Reine Rouge, elle lui dit: « Mais Reine Rouge, que se passe-t-il? Nous courons très vite, et le paysage ne change pas. » Et la Reine Rouge a cette réponse extraordinaire, qui est devenue célèbre: « Nous courons pour rester à la même place. » Alors vous allez me dire, on est loin de la coévolution. Pas du tout. Nous y arrivons. Lorsqu'on examine toute l'évolution, on est quand même un petit peu intrigué par le fait que depuis 3 milliards et demi d'années, ça dure, ça se perfectionne, sans arrêt, et qu'on est passé, comme je l'ai dit déjà, de ces formes extrêmement primitives de la vie à des formes extrêmement évoluées, comme les primates et les hominidés. Il y a une idée qui a été émise par un Américain qui s'appelle Leigh Van Vallen, qui est professeur actuellement, il est toujours vivant, à l'Université de Chicago. Et précisément, il a appelé cette hypothèse l'hypothèse de la Reine Rouge. Quelle est l'idée de Van Vallen? L'idée de Van Vallen est la suivante. Il dit, voilà, si nous avons des espèces vivantes qui vivent ensemble, qui exploitent d'une certaine manière une même ressource, eh bien, si l'une, du point de vue adaptatif, bouge un tant soit peu, c'est-à-dire améliore son exploitation du milieu, elle provoque une perturbation dans l'ensemble du système et les autres espèces vont être obligées à leur tour de s'adapter pour faire aussi bien que la première. Mais les autres espèces, donc, par sélection naturelle, vont s'adapter mieux, ce qui fait que ça va modifier le paysage, on parle de paysage adaptatif, pour la première espèce. Et vous voyez qu'on retombe dans cette idée d'un mouvement auto-entretenu et infini, indéfini, qui ne finit jamais. Et c'est cela que Leigh Van Vallen a baptisé l'hypothèse de la Reine Rouge. Vous voyez le rapport avec la Reine Rouge? Au fond, les espèces évoluent tout le temps, pas pour améliorer leur adaptation. Nous ne sommes pas mieux adaptés à exploiter notre milieu qu'une bactérie, pas du tout. Les bactéries, même, elles font beaucoup mieux que nous. Elles ont des gènes que nous sommes incapables d'avoir. Elles sont partout, au fond des océans, dans les glaciers, dans le pétrole. Nous ne sommes pas capables de faire cela. Donc, en termes d'adaptation, nous ne sommes pas du tout au-dessus des bactéries. Nous sommes au-dessus en termes de complexité. Et cela va nous amener à expliquer pourquoi cette hypothèse de la Reine Rouge nous fournit une explication à la complexité. Autrement dit, pourquoi le mouvement auto-entretenu ne s'arrête-t-il pas? Eh bien, l'idée, c'est tout simplement que chaque fois que depuis le début, une espèce a bougé et l'a obligé l'autre ou les autres à s'adapter, ce qui a obligé la première de nouveau à s'adapter et ainsi de suite. Autrement dit, on est resté à la même place, l'adaptation ne s'est pas améliorée. Un homme n'est pas mieux adapté à son milieu qu'un poisson ou une bactérie, pas du tout. Mais par contre, petit à petit, ça a entraîné des exploitations de plus en plus nombreuses et ça a entraîné la fameuse complexité. Donc vous voyez que la coévolution maintenant, nous ne sommes plus dans des histoires de fourmis ou dans des histoires d'antilopes. Nous sommes au cœur même du mécanisme global de l'évolution biologique. Alors, je ne dis pas que cette hypothèse soit acceptée par tout le monde. Et je ne dis pas qu'il faille non plus l'interpréter comme quelque chose qui va être totalement gradualiste, c'est-à-dire ça se fait petit à petit, petit à petit. Non, bien sûr, il va y avoir d'autres choses qui vont intervenir. Il va y avoir des événements physiques, des événements géologiques, la dérive des plaques, les changements de climat. Tout ça va intervenir aussi. Et puis le fait que les populations sont tantôt grandes, tantôt petites, vous avez lu certainement peut-être les livres de Gould, qui a créé ce qu'on appelle la théorie de l'équilibre ponctué. Tout cela ne s'oppose pas du tout à la Reine Rouge. La Reine Rouge est actuellement la seule hypothèse qui nous donne une explication de la complexité. Mais mieux que cela. La Reine Rouge nous donne une explication à quelque chose que vous ne pensez peut-être pas qu'on a besoin d'une explication. C'est la sexualité. On va me dire, mais la sexualité, qu'est-ce que ça a à voir? Alors, dans la course aux armements, ou les courses aux armements telles que je les ai décrites tout à l'heure, vous avez bien noté qu'il fallait de la diversité génétique. Puisqu'en quelque sorte, il faut être capable de répondre à ce qu'on peut appeler, toujours en utilisant des mots un petit peu anthropocentriques, les inventions de l'autre. Les inventions étant bien entendu des gènes avec des caractères qui sont codés par ces gènes. Par conséquent, plus une espèce a de la diversité, plus elle est capable de répondre à la diversité de l'autre. Et si on reprend l'exemple des relations parasites-hôtes, eh bien, il faut bien comprendre que si un parasite était génétiquement formé d'une population totalement identique, tous les individus semblables, eh bien, très vite, les hôtes trouveraient le moyen de détruire ces parasites, tous pareils. Vous savez qu'aujourd'hui, on fait des clones, par exemple, dans l'agriculture, et vous savez que ces clones sont extrêmement fragiles. Quand il y a, par exemple, un virus qui s'attaque à l'un des individus, eh bien, tous meurent parce qu'ils ont tous le même génome. Par conséquent, la diversité est utile à la fois pour le parasite, vous le devinez, et pour l'hôte. Il faut donc générer de la diversité continuellement. Un petit peu, c'est la même chose que Alice et la reine qui courent, ben, il faut qu'elle continue à courir. Ce sont les jambes d'Alice, les jambes de la reine, qui symbolisent la diversité. Eh bien, pour faire de la diversité, quand on est tout petit, quand on est un virus, quand on est une bactérie, au fond, ce n'est pas très difficile. Parce qu'il y a un temps de génération extrêmement bref. On se reproduit très vite. Donc, il peut y avoir très vite des mutations. Vous avez des bactéries qui se reproduisent toutes les 30 minutes. Donc, on fait des mutations. Et puis, il peut y avoir tellement de bactéries qu'on peut... Il y a même ce qu'on appelle des explosions de mutations qui sont dues à des gènes mutateurs qui modifient l'efficacité des enzymes de réparation de l'ADN. Bon, on ne va pas entrer dans le détail. Mais peu importe qu'on perde des quantités de bactéries, l'important est d'avoir de la diversité et qu'il y en a qui survivent face, par exemple, aux défenses immunitaires. Mais lorsqu'on est un éléphant, lorsqu'on est un cheval, lorsqu'on est un homme, eh bien, les opportunités de mutation sont beaucoup moins nombreuses. Nous avons un temps de génération, par exemple, nous les hommes, qui est de l'ordre de 25 à 30 ans. Or, tout ce qui peut se passer dans nos cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules de nos bras, de notre cerveau, etc., tout ça ne compte pas. Les seules choses qui comptent, c'est ce qui va se passer dans les cellules de ce qu'on appelle notre lignée germinale, celles qui vont donner les gamètes. Eh bien, vu qu'on se reproduit tous les 25 ou 30 ans, il n'y a une opportunité de faire quelque chose de neuf que tous les 25 ou 30 ans. Et le résultat, c'est que la diversité génétique issue des mutations, eh bien, était probablement insuffisante à partir du moment où, précisément, les organismes sont devenus un petit peu complexes et où leur temps de génération a été un petit peu plus long. Et à ce moment-là, je dirais que est apparue la sexualité. Sinon, la sexualité ne peut pas s'expliquer. On peut très bien démontrer, on fait ça le jour de la première leçon de génétique lorsqu'on fait un cours aux étudiants, que dans une population où il y a des mâles et des femelles, les mâles ne se reproduisent pas. Ce sont les femelles qui se reproduisent. Et la preuve en est que chez certaines espèces, d'ailleurs pas très nombreuses, il y a des femelles qui arrivent à se reproduire sans qu'il y ait jamais de mâle, dont le mâle n'est pas indispensable. Eh bien, oui, il est indispensable. Mais il est indispensable simplement dans le cadre conceptuel de la sexualité. Parce que la sexualité va introduire quelque chose de fondamentalement nouveau dans l'évolution. Elle va introduire la recombinaison des génomes. Une femelle qui se reproduit toute seule, c'est-à-dire une femelle parthénogénétique, elle le transmet à la génération suivante la totalité de ses gènes. Une femelle sexuée ne transmet que la moitié de ses gènes, puisque l'autre moitié va être celle du mâle. Mais il va se produire quelque chose de totalement nouveau, la recombinaison des génomes. C'est-à-dire non pas la création de nouveaux gènes, mais la création de nouvelles combinaisons de gènes. Or, vis-à-vis de la coévolution, vis-à-vis des courses aux armements, ce qui importe, c'est la diversité, non seulement des gènes, mais également des combinaisons de gènes. Et par conséquent, même s'il y a aussi quelques autres explications du phénomène sexualité, eh bien celle qui, pour ma part au moins, me paraît la plus convaincante, c'est qu'elle intervient tout simplement dans les courses aux armements, c'est-à-dire dans les phénomènes du type reine rouge. Au fond, si vous imaginez que la reine, c'est Lot, et que le parasite, c'est Alice, ou l'inverse, peu importe, il ne faut pas pousser la comparaison trop loin non plus, eh bien, il faut que toutes les deux aient continuellement de quoi courir. Et pour avoir de quoi courir, il faut avoir de la diversité génétique. Voilà donc deux conséquences de la théorie proposée par Leif van Wallen, qui nous explique beaucoup de choses. Deux conséquences, l'une sur la complexité, l'autre sur la sexualité. Et vous voyez que ce n'est pas un mince mérite pour cette théorie de van Wallen, cette théorie de la reine rouge, de nous donner ainsi des explications à des concepts qui, sans cela, sont extrêmement difficiles à expliquer. Mais la complexité nous a mené à quelque chose d'un petit peu spécial dans l'évolution. C'est l'homme. C'est l'homme. Un beau jour, alors je vous rappelle les échelles, la vie est née il y a à peu près 3 milliards et demi d'années, et puis à peu près 3 millions et demi d'années, une branche parmi les primates a acquis des caractères nouveaux, et elle va mener aux hominidés, et puis elle va mener, il y a peut-être 200 000 ans, à l'homme moderne, c'est-à-dire à vous et à moi. 3 millions et demi d'années, ce n'est pas très rapide à l'échelle de l'évolution. Et pourtant, cet objet, c'est-à-dire vous et moi, ces objets, ce sont les objets les plus complexes de l'univers. Votre cerveau contient entre 10 et 100 milliards de neurones, qui ont chacun, en moyenne, un millier de synapses avec d'autres neurones. Dites-vous bien que chacun de vos cerveaux, vous pouvez faire le raisonnement chacun pour vous-même en ce moment, vous avez dans votre boîte crânienne l'objet le plus complexe de l'univers. Cet objet le plus complexe de l'univers, la meilleure manière de l'expliquer, c'est la reine rouge. Seulement cet objet complexe, eh bien, il va faire payer cher à l'évolution le fait qu'il est apparu, le fait que l'évolution l'ait produit. Et c'est ce que j'appelle la revanche de Lamarck. Vous vous rappelez qu'au XIXe siècle, il y a eu, avant Darwin, le Français, Jean-Baptiste de Lamarck, qui a été le premier transformiste. C'est lui qui a été le premier à parler de transformisme. C'est lui qui a créé le mot biologie, n'oublions pas. Mais il s'est trompé sur quelque chose. C'est la fameuse hérédité des caractères acquis. Vous savez qu'on a caricaturé Lamarck avec l'histoire de la girafe. Pourquoi la girafe a-t-elle un long cou? Parce qu'elle essaie d'attraper les feuilles en haut des arbres, et puis le cou s'allonge un petit peu. Et puis ce caractère acquis pendant la vie d'un individu se transmet à ses enfants, et puis de fil en aiguille, le cou s'allonge. Eh bien ça, c'est faux. C'est faux parce que nous l'avons dit tout à l'heure, tout ce qui se produit en dehors des cellules germinales, des cellules qui donnent les gamètes, ne peut pas être transmis aux descendants. Il n'y a donc que les mutations aléatoires qui peuvent faire de l'évolution. Lamarck s'était trompé. Mais qu'est-ce que c'est que j'appelle la revanche de Lamarck? Eh bien, comme le disent un chercheur de Cambridge, cette fois-ci que je connais bien, qui s'appelle Kevin Lalande, qui est l'un des spécialistes de ces problèmes, le jour où un homme a su tailler un caillou pour en faire un outil, il avait quelque chose qu'il pouvait transmettre sans le secours de ses gènes. Cet homme pouvait avoir un enfant et il pouvait l'expliquer comment il avait trouvé le moyen de tailler et d'utiliser le caillou. Eh bien, le jour où ça s'est produit, la culture était née. Et cette culture, elle allait tout changer. Au début, bien sûr, ce n'est pas allé très vite. Mais si vous regardez ce qui s'est passé dans les 200 dernières années, et pourquoi pas même dans les 20 dernières années, vous vous rendez compte que l'accumulation des connaissances transmises de plus en plus vite et de plus en plus abondante, elle a créé une évolution de type lamarckien. C'est une hérédité des caractères acquis. Les caractères acquis, ce sont les connaissances, donc il y a une hérédité des caractères cognitifs. Ce sont des caractères matériels, par exemple la transmission d'une maison. Ce sont des caractères spirituels, la transmission d'une croyance. Tout ça peut se transmettre. On n'a plus besoin des gènes. Et ça change tout. C'est la revanche de Lamarck. Et apparaît ainsi la culture. Et la culture va modifier maintenant le cours de l'évolution. Comme je l'ai dit, l'évolution a pris un risque terrible en créant l'homme. L'homme va modifier beaucoup de choses. Il est le premier à avoir ce pouvoir. Et il y a aujourd'hui une forme de coévolution qui est de plus en plus étudiée. C'est ce qu'on appelle la coévolution culture-génome. Autrement dit, on s'intéresse aux relations entre ce qui, dans la vie des hommes, dans l'évolution des hominidés, dans la société, dans la civilisation, dans ce que nous sommes tous, ce qui revient aux gènes et surtout aux changements génétiques, et ce qui revient à la culture et surtout aux changements culturels et aux relations entre les deux. Et quand je dis relations entre les deux, ça veut dire que je suis tombé dans une nouvelle coévolution qui est maintenant une coévolution de processus. Et on s'intéresse en particulier à tout ce qui peut, dans la culture, modifier l'évolution génétique. Alors c'est un problème immense qui est en cours d'émergence et je vais simplement vous donner quelques exemples. Bon, normalement, dans une population, les individus se croisent d'une manière plus ou moins aléatoire et ils ont des enfants, etc. Il y a la sélection naturelle, on connaît tout ça. L'invention de l'agriculture a été le premier grand accroc à la sélection naturelle génétique classique. Et elle a permis de créer une hiérarchie entre les hommes. À l'époque des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, il y avait une hiérarchie, bien sûr, dans les bandes, mais ça n'allait pas plus loin. À partir du moment où il y a des terres, à partir du moment où il y a des propriétés, les hiérarchies vont devenir extraordinairement étendues. C'est de là que viennent les féodalités. C'est de là que viennent les rois. C'est de là que viennent les empereurs. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'évolution? Mais oui, ça a à voir. Il y a des travaux en particulier de Laura Berzig, les travaux également de Matt Ridley, qui montrent très très bien que peut-être jusqu'à une date récente, où c'est peut-être en train un petit peu de changer, eh bien, ce pouvoir était fait pour se reproduire. Je vous cite deux exemples. Je vais les prendre en Chine, parce que ma femme est chinoise, alors je suis un petit peu au courant de ce qui s'est passé en Chine. Eh bien, il y avait un empereur qui s'appelait Feiqi, qui vivait au 5e siècle de notre ère. Il avait 10 000 concubines. Il y a une dynastie qui vivait deux ou trois siècles plus tard, la dynastie des Nans, dans lesquels il y a encore un progrès qui avait été fait. Les empereurs avaient aussi 5, 6 000 ou 8 000 concubines, et il y avait un agenda qui était tenu des dates de menstruation de toutes les concubines, de manière à ce que l'empereur ne les visite que les jours où elles pouvaient être fécondées. Non pas où elles ne pouvaient pas, les jours où elles pouvaient être fécondées. Ça veut dire que ce pouvoir, issu de l'agriculture, il modifiait complètement la circulation des gènes, dont les phénomènes de sélection, à l'intérieur de l'espèce humaine. C'est l'exemple classique que l'on cite. Mais on peut en citer d'autres. On peut citer par exemple ce qu'on appelle, c'est pas très drôle d'en parler, je le sais, l'infanticide traditionnel. Vous savez que dans certains pays, c'est plus valorisant pour diverses raisons d'avoir un garçon que d'avoir une fille. Eh bien, le fait même que l'on tue les filles, jusqu'à 20% des filles qui naissent, modifie la proportion des sexes et par conséquent modifie le cours de l'évolution. C'est de la culture qui influence la circulation des gènes. Et puis, n'hésitons pas à dire que la médecine moderne est en train de changer beaucoup de choses. Et ne croyez pas que je manipule le paradoxe ou que je cherche à être provocateur. Tout simplement, il faut bien savoir que pendant longtemps, malheureusement, il y a eu, par exemple, une mortalité infantile importante, mais qui avait un pouvoir sélectif. Aujourd'hui, heureusement, il y a des vaccinations, il y a des thérapeutiques qui font que la mortalité infantile a considérablement diminué. Mais ce qui diminue aussi, c'est la sélection de gènes de résistance. Et le risque qui existe, espérons que je me trompe, le risque qui existe, c'est que du point de vue de la résistance à de nouvelles maladies, nous avons peut-être moins de gènes de résistance. Il y a ce qu'on appelle des protections croisées. Autrement dit, s'il y a des gènes de résistance dans une population, elle va pouvoir résister aussi à des maladies émergentes qui sont simplement un peu différentes des maladies qui étaient connues auparavant. Aujourd'hui, nous risquons de perdre ces protections croisées. Et regardez les lunettes, l'invention des lunettes, c'est culturel. Vous croyez que les myopes survivaient vraiment pendant la préhistoire? Quand ils étaient le dernier à voir venir le lion, vous croyez qu'ils transmettaient leurs gènes, cela? Ben aujourd'hui les myopes, ils y voient mieux que les autres. Ils ont des lunettes, c'est super perfectionné, le moindre astigmatisme est corrigé. Donc bien entendu, et c'est heureux, heureusement, attention, ne me faites pas dire que je dis qu'il faut enlever vos lunettes, pas du tout. D'abord, il n'y a plus de lions. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que là aussi, ça modifie la sélection. Et vous avez tout entendu parler du fait qu'il y a des gènes, par exemple des gènes qui causent le diabète, des gènes qui causent certaines sensibilités aux maladies, des gènes qui causent des allergies, qui sont aujourd'hui normalement maintenus dans les populations, alors qu'ils ont été, à certains moments, certainement contre-sélectionnés. Eh bien, vous voyez que du point de vue de l'évolution biologique, il y a des changements. J'en ajouterai un dernier, dont je ne suis pas très sûr. On pourra peut-être en discuter. C'est le problème de la famille. Aujourd'hui, c'est un lieu commun de dire que la famille se désagrège un petit peu. Or, si la famille se désagrège, ça modifie la structure génétique. Ce n'est pas du tout pareil de faire ses enfants toute la vie avec la même femme ou avec le même homme, ou bien de les faire d'une manière un petit peu plus désordonnée. Ce n'est pas du tout pareil du point de vue génétique. Eh bien, pourquoi la famille se désagrège-t-elle? Je vous propose une explication. Dans ce système culturel que j'ai décrit, une transmission qu'on appelle verticale, c'est-à-dire des grands-parents aux parents, des parents aux enfants, est d'autant plus intéressante que, tout de même, les connaissances ne varient pas trop vite. Or, nous sommes dans une phase aujourd'hui d'accélération formidable des connaissances. Ce qui veut dire que ce que les grands-parents peuvent apprendre à leurs petits-enfants, c'est complètement démodé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la transmission, elle se fait horizontalement. On apprend des autres, on apprend de sa génération, on n'apprend plus de la génération qui ont précédé. Et ça, c'est culturel. Pourquoi? Parce que la culture a provoqué l'accélération. Et pourquoi c'est génétique? Eh bien, parce que ça modifie la structure génétique des populations. Et je terminerai par une dernière considération, qui peut-être nous écarte un petit peu de la coévolution. J'ai parlé beaucoup de la culture, comme s'il n'y avait qu'une culture. Eh bien, ce n'est pas vrai, il n'y a pas qu'une culture. Les cultures se sont développées sous forme d'entités plus ou moins séparées dans le monde, séparées parce que la communication entre les différentes cultures se faisait mal, ou même ne se faisait pas du tout. Les Papous sur leur île, par exemple, ils avaient leur forme de culture, et il n'y avait pas des gens qui venaient leur donner une autre culture. Alors, actuellement, nous vivons une période où les cultures entrent en contact. Alors, ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il y ait une sorte de reine rouge qui se mette en marche. On pourrait espérer qu'elles exercent des pressions les unes sur les autres, mais d'une manière harmonieuse, parce que rappelez-vous que tout à l'heure, quand j'ai parlé des parasites et de leur vote, j'ai toujours sous-entendu que personne ne gagnait, comme dans les virus informatiques et les antivirus, personne ne gagne. Eh bien, si dans ce choc des cultures, qui est provoqué par ce qu'on appelle Internet, la mondialisation, tout ce que vous voudrez, si dans ce choc des cultures, il y avait un processus de reine rouge complexe qui s'installait où personne ne perde, eh bien, ça serait probablement formidable parce que les cultures s'enrichiraient les unes les autres. Mais, attention, pour qu'une reine rouge s'installe, il ne faut pas que les disparités soient très grandes. Quand on a introduit des chats dans certaines îles, dans l'archipel des Kerguelen, eh bien, en l'espace de 2 ou 3 ans, la plupart des oiseaux de ces îles ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas installé une coévolution. Il aurait pu y avoir une coévolution qui s'installe. Vous avez des chats, ben les oiseaux, il va y avoir sélection chez les oiseaux, de comportements pour éviter les chats, etc. Et puis les chats vont avoir des comportements pour attraper les oiseaux, et puis tout ça est équilibré. Mais attention, ceci ne peut marcher que s'il n'y a pas un trop grand déséquilibre au départ. Eh bien, malheureusement, je termine sur cette phrase un petit peu pessimiste. Dans le choc des cultures aujourd'hui, j'ai très peur que le déséquilibre ne soit très grand et qu'il ne reste au bout qu'une seule culture. Je vous remercie.